Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Jean-François, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et pour respecter la parité, bien, nous sommes en présence de deux dames.
Ce qui n'est pas tout le temps le cas.
Ce qui n'est pas le cas, mais on est ravis de les avoir, et encore pendant quelques semaines. Maëva Feltz et Léna Boran sont toutes les deux journalistes stagiaires et étudiantes à l'ISJT, Institut supérieur de journalisme
de Toulouse.
Bravo, mesdames. Voilà, et alors à tous les quatre, on va se pencher sur deux thèmes principaux, le modèle éducatif français qui est en souffrance, et puis les élections européennes et la campagne qui est en train de se dérouler. Nous terminerons, bien sûr, par les traditionnelles rubriques de fin d'émission. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Et comme d'habitude, citation, le maître dit, on étudie en pure perte si l'on ne réfléchit pas, on réfléchit à vide si l'on n'étudie pas.
C'est la Haute-Seuse, ça, au moins.
Ah ben bravo, c'est pas loin, c'était Confucius, hein. Comme disait Pierre Desproges, il n'est pas Confucius, vous vous en souvenez, ce qui ne nous rajeunit pas, 6e et 5e avant notre ère quand même, hein. Mais oui. Déjà à l'époque, on savait réfléchir.
Oui, un philosophe qui encore, semble-t-il, voir au chapitre en Chine. Ah. Ce n'est pas une contrepèterie.
Oui, ce n'est pas une contrepèterie. C'est d'autant plus remarquable qu'en Chine, tout le monde n'a pas voix au chapitre. Et surtout, actuellement, je pense qu'on en parlera dans l'émission Economica avec Anis. Là, notamment les économistes qui sont priés d'avoir un discours extrêmement optimiste, absolument pas critique ni défaitiste. Ce qui nous rappelle un peu ce qui se passe chez nous, puisque c'est un peu la doxa du président Macron qui dit non, il ne faut pas tenir des propos anxiogènes.
Bref, ça va mieux.
Oui, bref, ça va mieux. Voilà. Alors, quelques chiffres. Bon, baisser les impôts. Tiens, on parlait de M. Macron qui, depuis son élection en 2017, dit non, baisser les impôts. Il n'en est pas question. Alors, sur le premier quinquennat, les ménages ont économisé 52 milliards en impôts, soit à peu près 350 euros de revenus disponibles par an et par foyer. C'est pas très rentable, hein, c'est pas énorme. Les deux domaines où l'action du président de la République est jugée le moins favorable sont désormais le pouvoir d'achat, sur lesquels il n'a que 16% d'opinion positive, et la gestion des dettes et des déficits, où il n'en a que 12%. C'est pas étonnant.
Non, pas trop. Hein,
et 87% des Français disent que les impôts sont restés stables ou ont augmenté depuis 1917, alors que seulement 10% affirment qu'ils ont baissé, comme quoi aujourd'hui, les Français sont des ingrats, finalement, qui ne regardent pas les efforts de M. Macron.
Bon, on ne le dira jamais assez.
On ne le dira jamais assez. Alors, je vous évite les chiffres sur l'absentéisme, hein, qui a tendance un peu à monter, avec une facture qui augmente d'autant, 16 milliards par an en indemnité. Donc, on va peut-être augmenter le délai de carence. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Nous en reparlerons. Rentrons dans le vif de nos sujets et commençons par le modèle scolaire français, dont je disais à l'instant qu'il était en souffrance. Alors pour présenter le thème, voilà, qu'y a-t-il de plus important pour un pays que l'éducation de ses enfants, que de former sa jeunesse à l'excellence ? C'est pas l'ancien prof qui est devant moi, universitaire, qui me dira certainement le contraire, ou à celles qui sont à ma droite et qui subissent encore aujourd'hui cet enseignement. Alors surtout en ce début troublé de 20e siècle, où les enjeux auxquels notre pays va devoir faire face vont requérir une population au mieux de ses capacités cognitives. Il est évident que l'éducation est la clé de la puissance et de la richesse des nations au 21e siècle. Je voudrais que il n'y a pas que moi qui en soit persuadé. Nous sommes dans une économie de connaissances. L'éducation, c'est aussi la clé de la cohésion sociale et de la défense de la démocratie. Alors, si comme dans le domaine de la médecine, notre pays fut un modèle en matière d'éducation, parce que voilà, ça le fut, cette belle époque relève aujourd'hui du passé, et pour ne pas dire d'un passé lointain. Les différentes présidences qui se sont succédées et les premiers et seconds mandats du président Macron montrent combien l'éducation nationale est aujourd'hui délabrée pour le plus grand malheur de ceux qui sont appelés à nous succéder. Bah, je pense à nos jeunes. Le recul du niveau de connaissance en est le meilleur révélateur. Vous savez que notre pays est désormais en queue de peloton dans le classement PISA. Alors, il y aurait peut-être beaucoup à dire, hein, sur les critères de PISA, mais enfin, on peut déjà le prendre comme un thermomètre. La dernière en date nous donne des résultats catastrophiques. Par exemple, pour les élèves de 4e, 53% ne maîtrisent pas les règles élémentaires de français. Bon, on suit un peu les réseaux sociaux, on le savait déjà. Et 55% des mathématiques. Et en zone d'éducation prioritaire, les fameuses ZEP, on monte à 79% et même 84% pour ce qui est des mathématiques. Alors, est-ce que c'est un problème de manque de moyens ? Peut-être, mais pas totalement, loin s'en faut. Aujourd'hui, on consacre 110 milliards d'euros à l'éducation. On sait davantage que dans les plupart des pays comparables. Et on ne peut que constater, malheureusement, un centralisme assez délirant, comme l'a dit sur une autre antenne Nicolas Beuvresse, un déclassement des professeurs, 28% de chute des rémunérations depuis les années 80, une bureaucratie étouffante et 250 000 postes de gens qui font autre chose qu'enseigner. Donc il faudrait peut-être un peu regarder ce qu'ils font. Et une fonte de l'enseignement des savoirs fondamentaux profite d'une myriade d'occupations annexes ou sociétales. Si l'on ajoute la violence récurrente dans les établissements, des problèmes religieux montés en épingle, une discipline vacillante, des locaux vétustes et inadaptés à un enseignement décent, des fonctionnaires laissés seuls face à des responsabilités qui les dépassent, on comprend que la faillite n'est pas loin. Et ce ne sont pas avec des annonces gouvernementales qui ne sont que de la grossière communication, des coups de menton bravache ou des recettes exhumées du passé et sentant le faisander que l'on va retourner la situation. Et puisque j'ai cité Nicolas Beuvresse tout à l'heure, qui je crois fait quelques chroniques dans le Figaro, je vais le citer pour terminer, ouvrez les guillemets. « La santé et l'éducation sont les biens premiers. Si on n'arrive pas à les assurer, ce n'est pas seulement l'économie qui coule, mais toute la démocratie », fermée les guillemets. Jean-François Mignard, sur cette fondamentale question.
Oui, alors comme vous l'avez dit, Jacques, c'est vrai qu'elle me touche particulièrement, à la fois parce que je suis un ancien enseignant.
Ou un enseignant ancien.
Les deux, je pense. Il se trouve que j'ai pu toucher un peu quasiment à tous les niveaux de la grande maison éducation nationale, puisque j'ai à la fois été instituteur, je suis intervenu dans le supérieur, et que je continue par ailleurs à être au quotidien avec des enseignants à travers des actions que je peux faire de façon associative et tout ça, voilà. Donc ça me touche, comme dit l'autre, et que par ailleurs, j'ai aussi travaillé dans la question éducative, puisque j'ai travaillé dans une grande association dite Mouvement d'éducation, et donc cette question-là me touche particulièrement, m'interpelle, comme on dit, particulièrement. Juste quelques éléments comme ça là, par rapport à la brillantissime introduction que vous faites, Jacques, comme d'habitude.
Merci, mon cher Jean, merci. Vous passerez à la caisse en sortant du studio.
Comme d'habitude. Vous évoquez le bilan assez catastrophique du macronisme matiné de blanquerisme, puisque c'est quand même emblématiquement Blanquer qui était ministre de l'Éducation nationale, qui restait un moment...
Oui, il y en a eu trois autres depuis.
Voilà,
hein,
ça défile. Maintenant, ça défile. Ça défile. On voit bien que la question qui est la question éducative, aujourd'hui, devient une variable politique d'ajustement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'enjeu que représente l'école, alors à la fois, comme ça a pu représenter quelque chose d'extrêmement fort dans notre pays, pas que dans le nôtre, mais à une époque, je veux dire, nous étions un pays qui regardait vers l'avenir et qui, se faisant investissez dans l'avenir. Et l'éducation, ce n'est pas autre chose que la vie de l'avenir. L'investissement éducatif, ce n'est pas autre chose que le futur d'un collectif. Voilà. Nous sommes devenus certainement une nation plutôt vieillissante, et la démographie nous le dit, qui a la trouille de l'avenir. Autrement dit, la jeunesse, à la sortie de la guerre dans les années 50, était une ressource, elle devient un danger. Et on sent bien que le rapport que le gouvernement et que l'État a à la jeunesse en général et sur les questions éducatives en particulier sont marqués par cette dimension-là qui est que, en gros, on ne considère pas que ce soit une priorité malgré les discours tels qu'ils sont tenus et que par ailleurs, on en fasse effectivement quelque chose qui fasse un fonds de commerce un petit peu politicien. Autrement dit, je pense que les annonces qui sont faites sont des annonces d'une part qui sont caractérisées par le fait que comme pour des tas d'autres choses, elles ne servent qu'à venir flatter l'opinion dans le sens du poil. Alors, je pourrais donner des exemples qui sont assez hallucinants pour quelqu'un qui s'est un peu intéressé. Alors, je ne suis pas le seul, mais on est nombreux là-dessus, mais qui s'est intéressé un peu à l'histoire de l'éducation. Je citerai le retour, le entre guillemets retour de l'uniforme à l'école, le recentrage sur les fondamentaux, et là-dessus. Par rapport à ce que vous évoquiez, Jacques, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que notre pays est un pays, par exemple à l'échelle européenne, dont le pourcentage du temps consacré à ce qu'on appelle les fondamentaux est peut-être un des plus importants par rapport à d'autres pays, par exemple les pays scandinaves, dans lesquels on passe moins de temps sur les fondamentaux, mais où on fait de l'éducation, et les résultats, pour le coup, sont des résultats beaucoup plus positifs. Autrement dit, et ça devient compliqué aujourd'hui de savoir ce que c'est comme fondamental. Voilà. Mais il y a cette espèce de discours qui flatte effectivement la dimension passéiste et réactionnaire qui devient l'idéologie qui est l'idéologie dominante dans ce pays. Bon, regardez CNews, etc., etc., quand ça parle d'éducation. Voilà. Et la deuxième des choses, alors d'une part, il y a une dimension qui est une dimension purement idéologique, et on pourrait aller rentrer dans le détail. Et puis la deuxième des choses, il y a un choix qui est délibéré, qui est celui effectivement de ne pas investir, voire de faire des économies sur l'éducation. C'est-à-dire que quand on regarde de près et qu'on compte par rapport aux mesures qui sont proposées, on voit bien que ce dont il s'agit, c'est pas du tout quelque chose de l'ordre d'investissement. Un exemple au passage, l'évolution qui semblerait être radicale du choc des savoirs et qui se traduirait par une formation des enseignants, se solde par des opérations qui sont des opérations à budget constant, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on est confronté à une crise qui est une crise sans précédent dans l'éducation nationale, qui est celle du personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'enseignants suffisamment nombreux pour garantir un minimum de fonctionnement de l'institution, au point même qu'on fait maintenant de l'entretien rapide et qu'on va embaucher des gens, soi-disant pour prendre la responsabilité de classe. Le recteur de Toulouse, inénarrable, vient de se vanter il y a quelques jours le fait qu'il vienne de recruter très rapidement des gens qui vont pouvoir foutre devant les élèves. Ça n'a strictement aucune garantie en termes de valeur pédagogique par rapport à ce qui se passe. Alors, c'est vraiment une articulation de ces deux niveaux-là, de mon point de vue, qui sont en train de mettre notre pays dans l'impasse. Parce que c'est vrai, si on ne fait pas une mise en place d'un dispositif éducatif performant, c'est notre avenir qu'on hypothèque. Voilà.
Et surtout l'avenir des jeunes qui sont très mal servis. On leur refile une planète considérablement pourrie pour laquelle on ne fait rien. On continue dans les errements que nous voyons tous les jours et on ne leur donne pas l'éducation minimale qu'on devrait leur donner. Alors, mesdames, Léna, Maëva, vous, il n'y a pas si longtemps que vous étiez dans ce système scolaire. Vous l'avez vécu comment, Léna ?
Du coup, moi, j'étais au lycée, avec la nouvelle réforme du bac qui est passée, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix de 3 spécialités en première et en abandonner une à la fin de la première pour après passer ces 2 épreuves en terminale. Et nous, on avait eu la particularité, les 2005, c'est de passer des épreuves de spécialité en mars, ce qui a été une première. Et ça s'est plutôt bien passé, les épreuves en mars, quoique, enfin, c'était assez compliqué quand même parce que les profs avaient une certaine pression de finir le programme en peu de temps. Du coup, ils ont dû bâcler la fin des programmes un peu. Et après, on a eu 2 mois et demi avant, jusqu'à mi-juin, pour passer l'épreuve de philosophie et de grand oral. Et du coup, on a pu remarquer qu'il y a eu un gros relâchement au niveau des élèves. Il y a eu un taux d'absentéisme énorme. Parce qu'après les 2 épreuves de spécialité, les 3/4 des élèves ne venaient plus en cours pour les spécialités. Ils venaient seulement pour la philosophie. Du coup, je pense que ça n'a pas trop dû aider. Et après, on a été la génération quand même à vivre le Covid. Du coup, moi, ça m'a touchée pour la 3e et la 2e. Du coup, j'ai perdu à peu près 2 ans d'école qui n'ont pas été trop rattrapés. Et ça a été compliqué un peu la première à se remettre dans le bain, on va dire, à être présente tous les jours en cours. Sachant que l'année d'avant, on prenait des confinements tous les 2 mois et on n'avait école qu'une semaine sur 2.
Maëva, même expérience ?
Oui, moi j'ai 2 ans de plus que Léna, donc les années Covid, ça s'est tombé pendant mon bac et j'ai fait partie de la première génération qui a inauguré le nouveau bac avec les spécialités. Donc c'était pas facile de réviser le bac, de ne pas avoir cours une fois sur 2. Je pense que c'était pas facile non plus pour le professeur de donner cours par visio. Même pour la participation, on apprend moins vite et on n'a pas cette proximité avec les professeurs. Ils peuvent pas venir nous aider un par un. Donc ouais, c'était pareil, j'ai perdu 2 ans, 2 ans d'école. Et c'était mes 2 dernières années.
Alors ça, c'est peut-être le Covid, on ne peut pas trop l'imputer à l'éducation nationale. Hein.
Oui, surtout que au passage, parole de professeur, on ne perd jamais 2 ans. Je pense qu'on ne perd pas 2 ans, parce que pendant les 2 ans que vous pensez avoir perdu, vous avez fait autre chose, certainement, que de la formation qui est de la formation classique. Et ça, c'est toujours un capital qui est un capital à valoriser. Je ne suis pas en train de dire que le Covid est une bonne chose. Ce que je pense, c'est que l'éducation, la formation, ça passe à la fois par des formes qui sont des formes identifiées, qui est le cours, la présence dans un établissement scolaire, mais que je ne suis pas sûr que le fait de ne pas suivre ça soit se traduise directement par le fait de pouvoir dire « j'ai perdu 2 ans ». Vous avez vécu 2 ans qui sont des années différentes, et vous avez vécu à travers ça un certain nombre de choses qui sont des choses qu'il faudrait que l'éducation nationale ou le système d'enseignement soit capable de valoriser.
Vous voulez faire une VAE sur les expériences, valorisation des acquis de l'expérience?
Non, pas du tout. Parce que je fais partie des enseignants qui pensent que les enseignants n'ont qu'une partie de l'équation qui est l'équation de l'apprentissage. Les enseignants sont des gens, alors ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas important ce qu'ils font et que c'est extrêmement important qu'ils soient formés pour faire ce genre de choses-là, mais que l'élève apprend et pas forcément à la mesure de ce que l'enseignant lui transmet. C'est l'élève d'une certaine manière qui construit les savoirs par rapport aux situations qu'il rencontre. La situation scolaire, qui de mon point de vue est une situation scolaire qui s'appauvrit aujourd'hui, c'est-à-dire le milieu scolaire est un milieu qui s'appauvrit par rapport à ce que ça a pu être, n'est qu'un élément qui est un élément qui permet aux gens, alors pour moi, d'apprendre des choses, de se former, de développer des compétences qui sont des compétences qui sont de l'ordre de celles que construit quelqu'un qui est dans une situation d'enseignement, qui est entre guillemets un enseigné ou un éduqué. Voilà. Je réagis un peu comme ça de manière directe sur cette idée, parce que je pense que c'est une idée qui est, sur laquelle on ne construit pas, qui est de dire, voilà, on a perdu 2 ans. On ne perd jamais 2 ans. C'est pas 2 années entre parenthèses que vous avez eues. Vous avez vécu une situation que nous, par exemple, en tant que génération, on n'a jamais vécue, qui est celle d'une épidémie à l'échelle d'un pays et même de...
Donc une pandémie.
Voilà, et d'une pandémie avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir... en quoi l'éducation nationale, confrontée à cette situation-là, a été capable de réagir. Moi, je suis assez perplexe sur la manière dont l'institution a été capable de réagir, parce que je pense que ce point de vue-là, elle n'est pas agile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément en capacité de s'adapter à des conditions qui sont des conditions nouvelles. Mais je pense que vous n'avez pas perdu du temps. Alors la question, c'est comment on pourrait imaginer, valoriser ce que vous avez pu vivre. Vous n'avez pas passé deux ans entre parenthèses.
Ou autre question, vous avez choisi le métier de journaliste. Est-ce que ce que vous avez appris, vous constatez que ça vous sert aujourd'hui dans vos études ? Est-ce que vous estimez bien formé pour attaquer ce métier, Léna ?
Alors moi, j'avais les spécialités SES et HGSP, qui est Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques. Du coup, ces deux matières m'ont aidé à dans mes études de journalisme. Ça permet d'apprendre de nouvelles... ça donne des bases de certains termes, de comprendre l'histoire un peu, surtout la géopolitique, de comprendre les conflits qu'il y avait et comment se déroule une guerre, entre guillemets. Et la science économique et sociale...
Par les temps qui courent, ça va être utile, oui, effectivement. Voilà.
Et qui arrive.
C'est ça. Et la science économique et sociale, c'est... toujours la culture générale que ça apporte, c'est très intéressant. Ça, c'est...
Bah Eva aussi, pareil.
J'ai fait pareil que Léna, donc j'avais économie et géopolitique, et j'avais aussi en première littérature.
Donc vous estimez que ce que l'on vous a appris, voilà, vous êtes satisfaite des enseignements que vous avez reçus.
Oui, bien sûr, parce qu'on nous apprend à écrire, à bien formuler, et au-delà de ça, on nous apprend surtout à réfléchir. Enfin, je ne sais pas toi Léna, mais en cours de géopolitique, c'était moins scolaire que les cours d'histoire classiques. Ça a poussé la réflexion. Et c'était très intéressant.
Alors, vous parliez, Jean-François, des difficultés de recrutement.
Oui, mais juste, je relève quelque chose que je trouvais d'intéressant pour vous. C'est quand vous dites c'était intéressant, c'était moins scolaire que d'habitude. Où c'était moins scolaire que le reste, ce qui d'une certaine manière laisse entendre, et je pense que c'est une réalité, que le scolaire n'est pas intéressant. Ce qui est une sacrée, c'est une manière de parler d'une certaine façon. Mais
est-ce qu'il faut entendre par là l'adaptation de l'enseignement à la vie d'aujourd'hui ?
Ce que ça veut dire d'une certaine manière, c'est qu'il y a un écart entre et l'intérêt et l'utilité et une bonne partie du scolaire tel qu'il est. À la fois mise en œuvre et voir éventuellement, on y reviendra si on veut aller regarder sur les projets du gouvernement concernant l'école, est en train de s'intensifier, c'est-à-dire une scolarisation traditionnelle sur des formes très classiques, alors que ce qui est dit, ce que j'entends moi, je l'entends de l'endroit où je suis, bien entendu, c'est des fois à un moment donné plus intéressant d'apprendre à réfléchir que d'apprendre des contenus. D'apprendre à construire son opinion, sa manière de penser ou des choses comme ça. Et la compétence, de mon point de vue, au 21e siècle, mais je pense que c'était pas très différent avant, mais peut-être maintenant plus que jamais, elle est de ce côté-là. Voilà.
Maëva ?
Bah oui, c'est sûr que les cours deviennent plus enrichissants quand on peut réfléchir dessus et qu'on nous donne la possibilité de donner son avis aussi.
Oui, et que d'une certaine manière, il y a pas, ça a été évoqué aussi. C'est intéressant la discussion, l'échange qu'on a, parce qu'on entend passer des choses qui sont des choses dont on n'a pas forcément l'habitude de reprendre ou sur lesquelles on réfléchit pas forcément, qui est par exemple l'idée du programme. Ils n'ont pas pu faire tout le programme. Le Covid, moi je fais partie d'un groupe de travail et de recherche sur le Covid comme révélateur des dysfonctionnements sociaux. Ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est une loupe sur des problèmes qu'on rencontre tous les jours, mais c'est la situation de pandémie
qui a exacerbé.
Voilà, c'est l'effet loupe, c'est-à-dire que là on ne peut pas les louper justement. On les voit parce qu'elles nous apparaissent, parce qu'on n'est pas, on peut plus compenser. Voilà, on est obligé de faire avec. Il y a des pays, par exemple, dans lesquels on n'a pas des programmes comme on peut les avoir en France. Pour un enseignant, c'est une croix à porter, un programme. Je veux dire, c'est un certain nombre de contenus qu'il faut absolument arriver à faire passer d'ici, pendant un temps qui est un temps, voilà. Et dès qu'on commence à jouer sur le calendrier, on pourra parler aussi du poids que peuvent représenter les examens et de la perversité que ça peut produire, c'est-à-dire qu'on apprend pour pouvoir passer un examen et avoir un bon résultat, voilà. Mais il y a des pays qui fonctionnent avec ce qu'on appelle le curriculum vitae de compétences. Voilà. Alors, ça fait un peu phraséologie, mais en gros, il s'agit pas tant de contenu que de compétences qui sont des compétences à acquérir. Et l'idée, par exemple, l'esprit critique et la capacité de construire un raisonnement, ça, c'est une compétence. C'est pas le programme qui est le programme tel qu'on peut le définir
à l'éducation. C'est une conception utilitariste de l'enseignement.
Laquelle ? Celle de
la que vous nous développez là en nous disant On acquiert une façon de penser, mais pas forcément les connaissances.
Non, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quelque chose qui renvoie du côté de la valeur. L'esprit critique, c'est pas que de la performance. C'est valoriser l'esprit critique, c'est une certaine manière de penser le rapport social et les individus et les fonctionnements qui sont... Je suis pas en train de dire par ailleurs que ça va à l'encontre ou c'est l'un ou l'autre. La question n'est pas tant... Mais la quantité de connaissances qu'on essaye de faire passer dans la tête des élèves quand on est professeur, parce qu'on sait que c'est là-dessus que va se jouer éventuellement leur réussite scolaire, et en France peut-être plus qu'ailleurs, leur réussite professionnelle au regard du poids des diplômes, c'est quelque chose qui est caractéristique de notre système scolaire et qui se fait au détriment aujourd'hui, par exemple, cette idée de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas forcément utilitariste. Hein. C'est une certaine manière, encore une fois, de penser ce que c'est qu'un citoyen et comment c'est quelque chose qui se construit. Voilà.
Alors, comment on va faire face aujourd'hui à ces difficultés de recrutement? Surtout que c'est pas très motivant. Les enseignants sont extrêmement mal payés. J'évoquais tout à l'heure une chute de 28%.
Ah, je peux vous...
On en parlait au micro. En Suisse, l'enseignant débutant commence sa carrière avec une rémunération de 3500 euros. On en est quand même très loin en France.
Pour vous donner un ordre d'idée, les dernières annonces chiffrées du ministère, c'est que pour être enseignant aujourd'hui, il faudra avoir une licence et ensuite faire 2 années de formation professionnelle avec donc des responsabilités, y compris pédagogiques, en tenant une classe. La première année sera payée à 900 euros par mois. Et la deuxième année, les gens qui sont en formation et par ailleurs feront classe seront payés 1 400 euros par mois. C'est Mme Belloubet qui a annoncé ces choses-là. Il avait été annoncé 1 400 et 1 800 entre respectivement première et deuxième année. On a baissé. Il y a des économies à faire. C'est une illustration d'aujourd'hui l'incapacité à investir effectivement dans l'enseignement.
Donc ça veut dire qu'on n'en fait pas une priorité alors que ça le devrait, toute bonne logique. Ça veut dire qu'on ne revalorise pas le métier d'enseignant, ça veut dire aussi que l'ascenseur social demeurera éternellement en panne.
Le risque est effectivement du fait que on va aller, mais on y est déjà. Hein. Enfin, je veux dire, quand je dis on va, nous y sommes aujourd'hui déjà dans une situation dans laquelle le système éducatif est complètement délabré.
Alors, est-ce que quand on annonce, par exemple, qu'on va mettre des tenues, des tabliers aux élèves, qu'est-ce que ça vient faire dans le débat, en fait ? Est-ce que c'est de l'enfumage complet ? C'est pas parce que quand il y avait les hussards noirs de la République, on remonte aux années 30, il y avait des uniformes. Aujourd'hui,
c'était les hussards noirs et plus, même avant les années 30. Enfin, mais
oui.
Parce qu'on parlait d'eux.
Mais tout ça, bon, c'est terminé.
Alors, juste un truc au passage, c'est du foutage de gueule à tous les étages,
voilà.
Parce qu'y compris, ça n'a jamais existé. Hein, le retour. Alors voilà. Ce serait anecdotique et assez pitoyable si c'était pas révélateur effectivement de quelque chose. À l'éducation nationale en France, l'uniforme n'a jamais été obligatoire, ni même la blouse. Je veux dire, voilà.
Quand même, quelle curiosité. Mais alors, c'est prendre les Français pour ce qu'ils ne doivent pas être, j'imagine. Non.
Je pense que c'est flatter effectivement la bête dans le sens du poil, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de revenir de façon assez. Alors, c'est assez redoutable en matière d'enseignement, qui est de dire c'était mieux avant. Il y a cette espèce de retour nostalgique et qui par ailleurs.
Il paraît que c'était une idée de Madame Macron histoire de tablier. Bon,
c'est leur affaire privée. Ça,
on a élu un jeune président qui pourrait être mon fils et dont sa femme est plus âgée que moi. Donc, pour moi,
Madame Macron n'a aucune responsabilité en quoi que ce soit a priori.
A priori,
dans le gouvernement de la nation. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un discours qui est un discours qui a. Il n'est pas nouveau. Enfin, il n'est pas nouveau.
On a toujours entendu ce genre
de choses. Bien sûr. Alors, on a toujours entendu ce genre de conneries historiques, y compris, qui est de dire, revenons avant, parce qu'avant, on imaginait que ce serait mieux. Je pense que si aujourd'hui, on prenait les élèves qui sont les élèves de cette espèce de l'école de Jules Ferry, qu'on n'a jamais lu d'ailleurs, parce que quand on lit Jules Ferry, c'est pas du tout ça qu'il raconte, au passage, Et si on le mettait aujourd'hui confronté à la réalité, qui est la réalité du XXIe siècle, y compris au niveau des compétences, ces jeunes-là ou ces écoliers-là seraient infiniment moins performants que les jeunes d'aujourd'hui confrontés aux questions auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à entendre.
Alors, classe surchargée, une école inclusive sans moyens, manque de formation et de soutien, des rémunérations à la traîne. On ne remettra pas de l'ordre dans cette série de problèmes très rapidement. Il faut un peu du temps long pour repenser complètement ce système. Or, le temps long et les politiques, ça ne va pas ensemble, puisque globalement, ils regardent à leur prochaine élection.
Ça, c'est une difficulté assez classique de l'éducation nationale, c'est-à-dire que chaque ministre qui veut d'une certaine manière marquer son ministère, et la quantité de réformes, je passe sur les réformettes annexes qui n'intéressent que les spécialistes, est absolument impressionnante à l'éducation nationale. Ce qui témoigne d'une certaine manière de ce que vous dites, Jacques. Autrement dit, on a une accélération ces derniers mois qui est absolument redoutable du côté éducation nationale. Mais le ministère de l'éducation nationale est quelque chose dans lequel on fait carrière politique. Et au détriment, effectivement, de la continuité. Les enseignants le savent, hein. Là aussi, peut-être il faut, au risque de, je sais pas, de dévoiler des choses qui sont des choses que savent bien les professionnels. Les enseignants sur le terrain savent très bien qu'il faut faire le dos rond par rapport à des choses qui tombent d'en haut. Parce que de toute façon, s'il faut, deux ou trois ans après, c'est éventuellement la chose inverse qui va être impulsée par le ministère, ce qui est redoutable au demeurant, parce que cette espèce d'évolution absolument folle à l'échelle des lieux de décision conforte le conformisme à des moments donnés qu'on peut avoir sur le terrain quand on est enseignant, parce que, comme dans tous les métiers, il y a aussi une tendance à reproduire de manière confortable ce qu'on fait avant, en se disant, après tout, c'est pas la peine de s'emmerder, pour le dire trivialement, avec quelque chose qui tombe du ministère et que promeut l'inspecteur, puisque de toute façon, dans un an, je l'ai entendu, moi, hein, je l'ai entendu y compris, ça sera différent.
C'est un peu ce que disent tous les fonctionnaires dans les différents corps de fonctionnaires d'État. Hein.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas propre à l'éducation.
On fait le dos rond, on essaye de gérer au mieux, parce que finalement, on aime son métier, souvent on l'a choisi, on essaye de gérer au mieux son poste et ses responsabilités. Et puis, le ministre passera, n'arrivera un autre. Mais est-ce que là, on ne travaille pas contre la démocratie? Est-ce que cette manipulation permanente de l'opinion à travers cette communication effrénée, ces idées qui sortent et puis qui disparaissent au bout d'un moment parce que tout le monde s'est écharpé dessus, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la démocratie? Est-ce que ce n'est pas aussi faire un peu le lit du Front National?
Alors, ce qu'il y a d'à peu près clair, c'est que le discours aujourd'hui dominant sur l'école est un discours qui a repris la petite musique réactionnaire comme fourche le Front National. Je veux dire, l'uniforme à l'école, c'est quelque chose qui a été qui est un des dadas, hein, des discours du Front National, enfin, du Rassemblement National aujourd'hui, concernant l'école. Bon nombre de syndicats d'enseignants, pas mal de mouvements d'éducation, beaucoup de chercheurs et de spécialistes sur la question de l'école, hein, depuis maintenant quelques années, appellent à un grand débat sur l'éducation nationale, au sens de le mettre à l'agenda politique, hein, mais politique pas politicien, c'est-à-dire pas uniquement renvoyant à des changements de ministres ou à des gesticulations idéologiques, mais un débat à l'échelle de la nation, parce que c'est quelque chose qui est de cette échelle-là, de cette gravité-là. En gros, comment se projette-t-on dans les années ou dans les siècles qui viennent, et comment imagine-t-on ce que c'est que l'école? Et ce qui renverrait à... Alors, c'est pas la seule thématique de mon point de vue sur laquelle il faudrait que collectivement, en tant que parti de la nation, société, nous réfléchissions. Hein, vous savez, les fameux, on sent bien que dans la société, il y a aujourd'hui ces questions-là, de cette nécessité d'arriver à... Hein, alors, Macron a mis en place des grands débats nationaux, hein, des conférences citoyennes ou des choses comme ça. On mesure bien que parce qu'il mesure bien comme d'autres l'incapacité qu'a aujourd'hui le système politique à s'emparer et à traiter de manière ouverte, suffisamment riche et mobilisatrice pour les citoyens et citoyennes un certain nombre de questions. L'éducation nationale en fait partie.
Le système politique s'en empare d'autant moins qu'on ne le lui soumet pas. Aujourd'hui, le Parlement est quasiment à l'arrêt parce qu'on ne lui propose aucun plan, aucune discussion, aucun débat sur aucun des thèmes qui agitent la société. À côté de ça, Macron, qui a shunté complètement le Parlement, a créé ces fameux groupes, on l'a vu en matière d'environnement, de fin de vie, etc. Des groupes de réflexion dont il n'a jamais suivi les préconisations, de gens qui ont travaillé honnêtement pour avoir suivi et participé un peu à la formation de ceux qui ont traité de l'environnement. On a vu des gens très conscients, très responsables, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé et qui ont produit. Des résultats qui ont été balayés d'un revers de main. Vous parliez de foutage de gueule tout à l'heure, en voilà notre exemple.
Oui, on est vraiment sur cette... Je pense que concernant l'éducation nationale, l'enseignement, on est sur cette question-là. Tout traitement politique classique en amène aujourd'hui, et on en voit la démonstration, à des raccourcis qui sont des raccourcis calamiteux. Hein, encore une fois, le retour sur les fondamentaux, le retour du respect, enfin, je veux dire, une espèce de discours, enfin, on pourrait passer du temps à faire une analyse de texte des discours dominants qu'il y a là-dessus, alors que c'est un débat qui est un débat complexe, qui demande à ce qu'on le documente, et on a des formes de travail qui pourraient être de ce type-là. Et l'amorce de ce qui a été fait sur la question de l'environnement serait effectivement une piste qui est une piste intéressante, parce que pour qu'on fasse évoluer le système éducatif français, à la fois, il faut... Ça renvoie à des choix qui sont des choix, y compris douloureux. Ça renvoie à des choix douloureux. Un des premiers choix douloureux, c'est de faire le deuil, d'imaginer qu'avant, c'était mieux que maintenant, et que donc, en revenant sur ce qui était avant, on arrivera à trouver des solutions pour demain, alors que c'est les solutions d'hier qu'on va trouver, ou qu'on n'a pas trouvé. Et la deuxième chose, c'est que ça va coûter cher. Si on veut travailler, vous évoquez, Jacques, fort justement, le fait que se doter d'un outil qui est un outil d'éducation à l'échelle d'une société, c'est pas rien, ça demande un investissement qui est un investissement lourd, donc ça demande une certaine
lourd
manière, une adhésion
terme.
Des citoyennes et des citoyens. C'est pas uniquement...
Mais ils adhéreraient tous assez facilement. Hein.
À quoi ?
Au fait que l'éducation nationale soit certainement mieux traitée, que leurs enfants soient véritablement entre les mains de professionnels dans des locaux décents, avec des méthodes d'enseignement qui leur permettent d'affronter les enjeux qui sont devant nous.
Oui, bien sûr. Alors, la difficulté...
Les gens sont prêts à suivre.
Bien sûr. Alors, la difficulté qu'il y a, me semble-t-il, une des difficultés qu'il y a aujourd'hui autour de la question de l'éducation, je vais être un peu provocateur, mais on est prêt à investir dans l'éducation de ses enfants. Et pas forcément dans l'éducation des enfants des autres. Et ce qui se passe, hein, l'utilisation qui est faite, par exemple, l'enseignement privé comme outil qui est un outil de sélection et de tri, renforçant la reproduction des groupes sociaux et qui font que, bon, voilà, on peut l'entendre. On peut entendre effectivement qu'on choisisse que ces enfants aient des conditions de travail qui soient des conditions d'apprentissage qui garantissent leur avenir, indifféremment éventuellement du sort qui est porté aux autres.
Il y a des situations beaucoup trop différentes d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, avec des moyens qui ne sont absolument pas les mêmes.
Et aujourd'hui, de notoriété publique. Hein, je veux dire, on a les éléments, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, d'une certaine manière, arriver à mettre sur la table. C'est-à-dire qu'y compris qu'ensemble, on puisse décider des choix qu'on fait qui sont des choix, encore une fois, douloureux.
Alors, autre problème qui se pose à l'éducation nationale aujourd'hui, c'est la violence. Il y a de la violence dans les collèges, il y a de la violence dans les lycées. On a vu les agressions, voilà, qui pour le coup sont produites à l'extérieur, mais qui ne sont pas indépendantes du lycée. Est-ce que vous l'avez vécu, cette violence ? On avait été témoin, Léna ?
Personnellement, moi, mon lycée, du tout. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été témoin de violence.
Maëva, pareil ?
Non, moi, mon lycée et mon collège, c'était au fin fond de la Corrèze, alors il se passait pas grand-chose.
Ah oui, la Corrèze ou le Zambèze, oui, c'est sûr que oui. Ce sont des endroits plutôt calmes, effectivement.
Alors, ça aussi, moi, juste un commentaire par rapport à ce que vous dites. C'est assez symptomatique de ce qui se passe autour de ça. C'est que j'ai quand même, alors aussi pour suivre de manière un peu serrée et pas que de manière très générale, y compris concrètement, en me documentant, en travaillant avec des gens et tout, y a quand même un écart assez faramineux entre le discours qui est tenu sur la question qui est la question de la violence et la réalité de la violence, hein, ce qui est en train de se passer ici. Alors, bien sûr, il faudrait aller regarder quel est le type d'établissement scolaire vous avez fréquenté déjà, vous le dites, en disant, voilà, j'étais au fin fond de la Corrèze, et ce qui se passe au fin fond de la Corrèze n'est pas forcément identique à ce qui se passe au cœur du quartier du Mireille à Toulouse ou des Menguettes à Vénissieux. C'est assez évident. Et c'est un des éléments aussi que vous évoquiez, Jacques, sur le fait que tu vas à les endroits, l'éducation qui est proposée n'est pas la même. Mais on est dans quelque chose, me semble-t-il aussi, de la un petit peu de la panique morale concernant la question qui est la question de la violence à l'école. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence à l'école. Ce que je pense, personnellement, là-dessus, c'est que d'abord, il y en a moins que celle qu'on peut raconter quand on, encore une fois, on regarde certaines télés ou qu'on lit un certain nombre de journaux. Statistiquement, y compris, ça, c'est... Voilà. Je veux dire, on a l'impression que l'école est à feu et à sang, qu'on ne peut plus rentrer dans une classe sans risquer de recevoir une balle à la tête,
oui.
Ou de se faire violer quand il y a une fille dans les toilettes du lycée, ou d'être agressé par des islamistes haineux. Je veux dire, ça déconne. Des fois, j'entends des choses, je lis des choses qui me laissent un petit peu rêveur par rapport à la réalité. Deuxième élément que je voudrais évoquer concernant la question qui est la question de la violence, c'est que les établissements scolaires. Moi, j'ai connu des établissements scolaires, alors, il ne faut jamais prendre son propre exemple, mais quand même, dans lequel, moi, ça n'a jamais été exempt de violence, les établissements scolaires que j'ai rencontrés. Il y a toujours eu de la violence depuis l'école maternelle dans laquelle... Je parle pas sur la violence institutionnelle, dont vous auriez par ailleurs beaucoup à dire. La violence que l'institution exerce sur les usagers de l'école, que ce soit les enseignants ou les élèves. Parce que l'école, elle est violente aussi, hein, par rapport aux gens qui la fréquentent. Mais y compris entre eux.
Oui, mais
au collège, ça maillotchait.
Là, on parle d'une autre violence. Quand on voit des gens tabassés, passer à tabac, quand on voit des gens poignardés, on est sur autre chose.
Oui. Alors, on a, de mon point de vue, deux questions. C'est la question de l'école est violente parce que, d'une certaine manière, la société évolue sur de la violence. Alors, il faudrait mesurer entre la violence qu'on perçoit, celle dont on entend parler et la violence qui est la violence vécue. Je pense que nous avons vécu là aussi, dans la série c'est plus violent maintenant qu'avant, mais je pense aussi que ça se sait davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les violences telles que nous en entendons parler, on n'en aurait pas forcément entendu parler quasiment les mêmes à l'époque que nous avons vécu. Premier élément, c'est pas suffisant, mais c'est... La deuxième des choses, c'est quels sont les systèmes de régulation de la violence. C'est-à-dire quels sont les dispositifs, d'une certaine manière, qui permettent à l'école de fonctionner en faisant avec la violence qui est la violence sociale. Moi, je suis pas du tout convaincu que l'école soit un sanctuaire. Alors, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, quand on utilise... Des termes religieux pour parler de l'école publique. Je ne crois pas au sanctuaire, personnellement. Je ne crois pas au fait que l'école, il faudrait la fermer de la société pour qu'à l'intérieur existe un monde qui est un monde qui sera complètement coupé de la société. Ça, c'est du délire et c'est du fantasme. Quels sont les systèmes de régulation de la violence ? Je pense qu'aujourd'hui, si l'école, c'est un espace dans lequel on met dans des classes des enseignants et des élèves avec... deux problèmes pour les enseignants et qui est un problème pour les enseignants qui est faire le programme et faire la discipline au sens de faire baisser le taux de violence qu'il peut y avoir dans la classe et pour les élèves de se contenter d'apprendre ce qu'on leur dit et éventuellement d'être sage, de moucher son nez, de dire bonjour à la dame, ça ne fonctionne pas. Où sont les espaces intermédiaires dans un établissement scolaire dans lequel les adultes et les enfants font des choses ensemble et dans lequel ils apprennent à respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de lois. Fini cette affaire-là. aller dans un lycée, je ne sais pas aujourd'hui, et essayer de voir s'il y a un foyer socio-éducatif. Essayer de voir s'il y a des espaces dans lesquels il y a des adultes qui viennent accompagner les élèves sur des objets qui sont des objets qui ne sont pas uniquement ceux de l'enseignement et de la préparation de l'examen. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça existe non plus. Moi, je suis le fils d'une éducation nationale dans laquelle, on ne triait pas les élèves à l'entrée. On ne les triait pas. Même pour les signes religieux, on ne les triait pas. Et où il y avait des systèmes qui étaient des systèmes de régulation. Il y avait des enseignants qui étaient des enseignants qui ne faisaient pas que de la didactique disciplinaire, mais qui faisaient de la pédagogie, au sens de comment on travaille avec des enfants et des jeunes qui ne sont pas que des élèves, mais qui sont aussi... Voilà, des... Et ça, aujourd'hui, ça s'est sacrément perdu avec des enseignants qui n'ont pas y compris cette formation à ça.
Oui, il n'y a plus de, beaucoup de formation. Là, il y a également un dernier problème, mais on ne va pas trop l'aborder parce que le temps est passé très vite, on y reviendra. C'est le problème des familles monoparentales, surtout beaucoup de femmes seules issues de l'immigration avec des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à s'insérer.
Oui, mais là aussi, alors que ce soit à l'école ou aux périphéries de l'école, parce que je suis aussi, je sais pas vous, mais Jacques, mais moi je suis le fils d'une école qui avait des dispositifs, à la périphérie oui. de l'école. Ça s'appelait oui. l'éducation populaire à l'époque, dans lequel il y avait des éducateurs, il y avait des animateurs. Qui faisaient qu'il y avait un vrai travail, qui était un travail d'éducation, qui était fait aujourd'hui. Je cherche désespérément.
Alors, on n'arrive pas à trouver des gens pour animer le cœur du réacteur, alors la périphérie, mais vous non, pensez mais... bien que c'est fini.
Oui,
c'est
oui,
fini,
oui, bien sûr. C'est terminé. Quand vous allez dans les lieux dans lesquels se trouvent les populations que vous évoquez, que tout le monde sait à peu près où ça se passe, vous avez aujourd'hui une désertion complète de ce qui a structuré les quartiers pendant des années, ces quartiers-là, qui étaient des espaces... Moi, j'ai travaillé à l'intérieur dans ces espaces-là, dans lesquels on bossait avec les gamins et où les familles, d'une manière ou d'une autre, trouvaient là des partenaires pour pouvoir remplir leurs tâches éducatives. Aujourd'hui, cette question-là est réglée.
Bon, voilà, un panorama quand même assez pessimiste, on en est désolé, mais enfin, c'est un peu la réalité.
Bien sûr.
On sait ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, mais il faut du temps.
Je crains que nous ne soyons que lucides, pour le coup.
Oui, c'est un long travail de fond qu'il faut faire avec patience, qui sera dénué de toute portée médiatique.
Ah, c'est un vrai travail de fourmi, ça.
Et puis, voilà, qui ne doit pas être exploitable par les politiques à des fins bassement électorales, ce que malheureusement nous voyons aujourd'hui. Et puisque nous sommes sur la politique, deuxième sujet qu'on va traiter quand même beaucoup plus rapidement, les élections européennes. Alors la date des élections, vous le savez, a été fixée au 9 juin 2024, pour les électeurs français. Les députés européens sont élus au suffrage universel et répartis de manière proportionnelle selon la population des États, ce qui veut dire que la France pourra prétendre à avoir 79 eurodéputés. Et ce sera les premières élections qui auront lieu après le bouleversement induit par le Brexit. Et la sortie, bien sûr, du Royaume-Uni. Alors, on va parler assez rapidement des programmes des uns et des autres, parce que, à part les effets de manche et les pseudo... les pseudo-échanges que l'on voit sur toutes ces chaînes...
Les duels,
voilà. On aimerait savoir véritablement ce que les gens proposent. Alors, Maëva, Léna, vous êtes penchés sur des programmes... On commence par vous, Maïna. Qu'est-ce que vous avez regardé comme programme ?
Moi, j'ai regardé celui du Parti Socialiste.
Le Parti Socialiste, oui. Alors, M. Glucksmann, c'est ça ?
Oui.
Et que nous propose M. Glucksmann, alors ?
Déjà,
qui n'est pas socialiste, mais qui est place publique.
Oui, c'est dans le public.
C'est-à-dire, le Parti Socialiste, elle est un point un peu plus présenté, mais représentant de son parti. Mais je dis ça comme ça.
Oui, non, mais ça reviendra. François Hollande va relever le Parti Socialiste. Oui, on est désagréable. On vous a interrompu. Allez-y.
Du coup, il est en tête des sondages à gauche et il est le représentant du Parti Socialiste. Donc, selon les derniers sondages, il dépasse les 10% d'intention de vote, soit 14%. Donc, il n'est pas loin de rattraper Valérie Ayer.
Ouais. Qui est la représentante, elle, du
Renaissance.
Renaissance, ça change tout le temps, dans le parti de M. Macron.
Qui n'arrête pas, tel le phénix, de renaître.
Oui.
Donc, il est journaliste essayiste et homme politique français. Son parti avait affirmé faire basculer l'Europe du néolibéralisme au socialisme écologique. L'une des propositions du parti consiste à de mettre en place un paquet fiscal visant à imposer les entreprises polluantes, les personnes les plus fortunées ainsi que les super-profits. Cette mesure vise à financer la transition écologique. Il propose également la mise en place d'un protectionnisme écologique aux frontières européennes et soutiennent la transformation de l'Union européenne en une véritable puissance politique et budgétaire, capable de collecter des impôts et de taxer les patrimoines les plus élevés.
Il ne s'était pas prononcé pour l'agriculture intensive et pour la 69, M. Glucksmann, à une certaine époque où j'ai mal lu.
Alors, sur l'agriculture intensive, je ne sais rien. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dernièrement, il se serait quand même mis à distance du projet, alors, si on veut rester local, localo-local, à 69, éventuellement en se mettant un peu en froid avec la présidente du conseil régional Occitanie actuelle.
Mais qui voilà. Est une tenante de cette autoroute la stupidité apparaît de plus en plus.
J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler.
Je l'espère. Alors Léna, vous en avez regardé un autre parti, c'est lequel ?
C'est Renaissance.
Ah ben justement, donc
le Félix,
Madame Ayer, c'est ça.
Alors du coup, Renaissance est un parti politique français fondé par Emmanuel Macron en avril 2016. Il est de centre-gauche à centre-droit. À l'Assemblée nationale, on compte 165 membres qui font partie de ce groupe politique. Sa tête de liste est portée par Valérie Ayer. Leurs valeurs et leur engagement qu'ils prennent sont le progrès, l'initiative des territoires, le féminisme, l'engagement des chances, l'autorité de l'État, le travail, la laïcité, l'Europe, la nation, l'écologie, la liberté, ainsi que la République.
Ça, c'est ce qui a marqué sur le papier.
C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à pas mettre, quand même.
Oui. Non, parce que c'est quand même curieux, parce que c'est un parti qui est au pouvoir en France, et tout ce que vous nous développez là, ils ne l'ont jamais fait en France.
Je ne sais pas.
Ouais, c'est en tout cas ceux qui veulent... Ceux qui présentent.
Voilà.
Ils se définissent comme un collectif représentatif de toutes les sensibilités et des forces progressistes, et c'est un collectif paritaire. Et on peut voir que dans les sondages, le parti stagne avec seulement 19% des voix, ce qui est loin derrière le RN avec 11 points d'écart.
Voilà, alors le RN, effectivement, Monsieur Bardella. Il parle pas trop d'Europe ni de son programme. Hein. Il va à droite, à gauche, il fait les grands euros notamment. Il parle pas trop, mais il a raison, hein, parce qu'il a peut-être pas grand chose à dire. Voilà. Il fait les grands euros des organisations patronales hein, pour poursuivre sa tentative de séduction des milieux économiques. Peut-être que ça va marcher, mais qui sont quand même toujours sceptiques. Et il prend les vagues de l'actualité, les dettes, les drames pour attaquer le pouvoir. Macroniste, bon, c'est assez facile. Il promet, maintenant, il nous dit « je vais participer à des débats », parce qu'il y a eu des débats, mais il a toujours envoyé des 4e, 5e ou 6e couteaux. On a vu M. Mariani sombrer complètement dans
un... l'occurrence, ce sont quasiment des canifs.
Dans un débat, voilà, oui, même pas des canifs, qui ne sont pas très affûtés.
Je n'ai pas dit les caniches, des canifs.
Oui, c'est à peu près la même chose. Donc, il nous dit qu'il va venir. Alors, vous avez vu que la liste du Front National, elle a été rejointe par Mathieu Vallée, qui est un ancien syndicaliste policier, qui était le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, hein, qui a rejoint la liste du Rassemblement national.
Après le patron de Frontex.
Après Monsieur Fabrice Leggeri, ex-patron de Frontex, qui s'en est fait virer d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été des plus brillants. Et puis l'essayiste issue de la droite, Malika Sorel-Schutter, dont pas j'ai mieux. Cru comprendre qu'elle avait fait des offres à Monsieur Macron, qui restait taisant, donc de dépit, elle est allée là. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, mesdames, aujourd'hui, la liste RN tient l'accord dans les sondages avec une assez confortable avance. Alors, moi, ça m'interroge un peu quand même. Je me demande toujours pourquoi. Ça pose plusieurs questions. Quel attrait on peut, par exemple, trouver à des gens qui, lorsqu'ils étaient élus au Parlement, ils ont été élus, hein, ils ont très peu participé aux travaux durant la dernière mandature, pour ne pas dire qu'ils s'en sont assez désintéressés. Alors, pas des avantages matériels que leur procurait la fonction, puisque je crois qu'il va y avoir bientôt un procès au pénal. Bon, bien sûr, ils sont présumés innocents, mais on se demande s'ils n'ont pas fait un peu payer des assistants parlementaires qui étaient destinés à faire autre chose que le métier pour lequel le Parlement européen les payait. Première question, bon, on a pas été très présent. Deuxième chose, ils ont une vision de notre pays, de l'Europe et du monde qui a peu à voir finalement avec les réalités, notamment économiques, géopolitiques, sociales et environnementales surtout. Et ils nous proposent des solutions ou des pseudo-solutions extrêmement simplistes et hors sol à des problèmes complexes, alors qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs. Résoudre des problèmes complexes avec des solutions simplistes fortement teintées de passéisme, ça m'interpelle un peu quand même. On sent beaucoup le populisme rance quand même, hein, complaisant, mensonger, et qui est au final, et ça c'est dérangeant, fort éloigné des valeurs de la République française et de celles qui ont présidé à la création de l'Union européenne. Or, je sais bien que les fakes, ça marche. M. Trump nous en a donné l'exemple le plus éclatant, quelques pays d'Europe de l'Est aussi, mais c'est quand même surprenant que nos concitoyens, qui sont des gens qui ont un cerveau et qui savent réfléchir, portent aussi massivement leur voix sur un parti qui n'a pas grand-chose à nous proposer pour l'avenir et dans une situation aussi complexe que celle dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Peut-être un commentaire, Jean-François ?
C'est un peu désespéré comme situation et le commentaire risque de s'être de cette couleur-là. Mais c'est quand même assez... encore une fois, ce serait pas si grave, on pourrait en rire, que le Rassemblement national... qui pendant longtemps a fait ses choux gras d'un discours qui est un discours anti-système. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Hein, oui.
Nous on n'est pas comme les autres. Nous, on n'est pas des politiciens. Nous, on est plus près du peuple. Nous, on est est en train de se muer au moment où les autres entre guillemets partis politiques sont en train d'essayer d'évoluer. Ça m'a accroché l'oreille la présentation de Renaissance, qui, vous avez bien entendu, n'est pas un parti, mais un collectif. Hein, de la même manière que ce qui m'a accroché l'oreille, ou du moins ce que je sais par ailleurs, c'est que par exemple Glucksmann n'est pas un membre du Parti Socialiste, qui est pourtant appuyé par le Parti Socialiste. Tout le monde aujourd'hui, semble-t-il, dans le jeu politique, semble vouloir faire oublier son appartenance à un système qui est un système classique. Hein, autrement dit, on n'est plus un parti, on est un collectif. Ou on n'est plus le parti dominant, mais on est le parti qui est derrière, et on met devant quelqu'un qui n'appartient pas.
Et les filles, pareil, on était un mouvement gazeux.
Voilà, on
l'a vu d'ailleurs.
Je vous fais grâce de toutes les contorsions qu'il peut y avoir à d'autres endroits. Et le Front National, le Rassemblement National, est en train de devenir un parti respectable, pour le coup, hein, avec des représentants qui ont des costards-cravates et qui se présentent proprement, qui présentent un genre comme tête de liste aux élections qui sont les élections européennes, qui sur le fond, par ailleurs, n'ont comme marqueur, comme réalité, par rapport à ce que vous dites, Jacques, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils annoncent, ils ne l'ont jamais tenu. C'est-à-dire que tout le discours autour de la dimension sociale du Rassemblement national, tel qu'ils le disent, est complètement contredite par toutes les décisions et tous les votes qu'ils ont pu prendre, hein, que ce soit en Europe ou dans le gouvernement français, dans le Parlement français.
Il faut ajouter quand même que la position qu'ils ont au sein du Parlement européen en Europe n'est pas du tout celle qui développe
France. Et de mensonges permanents, là aussi, hein, c'est ça que je suis en train de dire. En gros, on est en train d'être dans une gigantesque mise en scène, sachant que la seule chose, au fond, effectivement, de mon point de vue, qui fonde et qui d'ailleurs est un indicateur d'un vrai problème social, c'est qu'est-ce qui caractérise le Rassemblement national ? C'est la haine de l'autre. C'est la haine de l'autre.
Et surtout s'il est étranger, voire un peu bronzé.
Quand je dis l'autre, c'est celui qui n'est pas comme nous, d'une certaine manière, à qui, effectivement, on va attribuer toutes les misères du monde telles qu'on peut l'avoir, avec un énorme avantage, on le sait dans l'histoire, ça. C'est que des autres, il y en a toujours. Et que en plus, en règle générale, les autres, hein, on a toujours un autre qui est un autre plus bas que soi, et que de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'on va avoir du pouvoir sur lui pour pouvoir l'exclure. C'est le fond de commerce du Rassemblement national, c'est le fond de commerce d'un certain nombre d'autres mouvements à l'échelle européenne. Le vrai... Alors, et vous pointez quelque chose de mon point de vue que je partage, qui est dire ça, c'est fondamentalement et radicalement différent et antinomique avec les fondements. Alors, article 1, les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit, etc., etc. Et que là, hein, la société, avec un terme là aussi, hein, est en train de basculer. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas comme basculement politique, c'est un basculement qui est un basculement à l'échelle des valeurs.
Bien, nous aurons l'occasion de revenir sur ces élections européennes. On regardera avec vous, et on le fera ensemble, ce que nous disent également les autres partis. Il y en a un certain nombre. Alors, nous en arrivons, et l'heure est largement dépassée d'ailleurs, à nos rubriques de fin d'émission. Alors, les brèves. Eh bien, les brèves, moi, je voulais vous dire quelque chose qui m'a choqué, mais enfin, j'ai peut-être pas été le seul, hein. Vous l'avez vu, interpellation brutale, garde à vue interminable, 17 personnes arrêtées le 8 avril dans le cadre d'une action contre la Farge en 2023, on avait un peu débarqué dans une usine de la Farge pour faire un peu de mouvement et de communication, et avec des moyens disproportionnés, puisqu'on a demandé à l'antiterrorisme d'intervenir. C'est quand même curieux, à l'époque où on est, je pense que l'antiterrorisme a bien autre chose à faire, hein. 6 heures du matin, région parisienne, réveillé par des coups de bélier, fracas de portes défoncées. On s'est trompé d'ailleurs d'appartement à 2 reprises, donc on est allé défoncer les portes de gens qui se demandaient ce qui se passait. On a été brutaux dans les interpellations, des coups de pied, des coups de poing dans les côtes, dans le ventre, etc., avec des gants coquets. Vous savez comment ces gens sont équipés. Donc nous avons, il y aura certainement des suites judiciaires à ce type de choses. Mais enfin, je trouve que Monsieur Darmanin, là aussi, se trompe de cible, et deux, la France ne sort pas grandie de ce genre de méthodes policières qui ont tendance à se généraliser. Effectivement, alors, est-ce que la démocratie est en danger? En tout cas, M. Darmanin ne fait rien pour qu'elle ne le soit pas. Jean-François?
Oui, alors, moi, je suis allé chercher ma brève en Italie, puisque je savais qu'on parlerait d'Europe et qu'on parlerait aussi de l'extrême droite. Et ma brève, elle concerne Giorgia Meloni, que tout le monde connaît bien, qui est la première ministre italienne actuelle, qui est membre d'un parti qui est un parti très, très proche du Rassemblement national et qui vient d'engager un procès pour diffamation. Ça se passe à Bari, dans les Pouilles, dans un pays que vous chérissez, Jacques, hein, l'Italie. Donc, Giorgia Meloni a attaqué en diffamation un historien qui s'appelle Luciano Confora, qui est un historien qui a eu l'outrecuidance, dans une intervention qu'il a pu faire dans une réunion publique, hein, de dire que, ouvrez les guillemets, Giorgia Meloni est néo-nazie dans l'âme, en argumentant y compris historiquement ce qu'il était en train de dire à la tribune, ce qui lui a valu effectivement, alors à lui, et on pourrait évoquer d'autres intellectuels et universitaires italiens, être l'opprobre de la première ministre d'un mouvement qui est un mouvement d'extrême droite. Le procès s'est ouvert hier, le 16 avril. Et ça nous donne une petite idée de ce qui nous attend éventuellement avec l'extrême droite.
Allez, ça va mieux. Avant-dernière rubrique, eh bien moi, je n'ai déjà parlé dans une autre émission qui s'appelle Arcania, où on parle de l'état de la planète, mais j'y reviens parce que ça me semble tout à fait intéressant, parce que c'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme, que l'on appelle d'ordinaire CDEH, c'est la première fois qu'elle s'est prononcée sur la responsabilité des États en matière d'action contre le changement climatique, en rendant le 9 avril un arrêt condamnant la Suisse pour la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, après une requête portée par 2500 femmes. Alors, on les appelait les mamies, je crois, parce qu'elles ont un âge respectable et qui dénoncent des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique qui, selon elles, mais on le sait, c'est vérité, ont des conséquences négatives sur leurs conditions de vie et de santé. Donc, on verra ce qui va se passer. Est-ce que ça fera jurisprudence? Auquel cas, un certain nombre d'autres États, à commencer par celui de la France, pourraient bien se retrouver condamnés comme l'a été la Suisse. Jean-François?
Bah, écoutez, je ne vais pas mentir, je n'ai pas trouvé, hein, ce qui est quand même pas un bon indicateur de ça va mieux. J'avais retenu effectivement cette information et je me disais que Jacques, elle ne passerait pas en dehors de votre attention. Juste un petit commentaire. Il y avait aussi un certain nombre de jeunes portugais qui avaient engagé une procédure à la CEDH, ainsi que Damien Carême, qui est un méricologiste connu en France, qui ont été retoqués sur des questions qui sont des questions de forme. Autrement dit, juste comme commentaire, on voit bien que commence à apparaître quelque chose hors de l'application d'un droit à l'environnement, qui commence à irriguer les décisions des juridictions à défaut de la nation, au moins à l'échelle européenne, que certainement nous allons vers quelque chose qui est un contrôle des États par rapport aux engagements qu'ils ne tiennent pas. Parce que c'est bien de ça, c'est bien là-dessus que l'État, le gouvernement suisse a été interpellé.
Préoccupation qui rejoint un peu celle de l'éducation nationale, puisque là on parle de nos enfants, de nos jeunes, puisque nous, même si tout revenait vert et vertueux, on sait qu'il faudrait au moins 30 ans pour que les choses reviennent un peu à un étiage vivable. Alors terminons par le traditionnel conseil culturel. Je ne change pas tellement de registre. J'en ai déjà parlé, je la recite parce que c'est vraiment excellent. C'est une BD, ça s'appelle Vert de rage, les enfants du plomb. C'est sorti chez Michel Lafon. Martin Boudot, qui est journaliste, et Sébastien Piquet, qui est dessinateur, qui sont allés faire, ils l'ont fait pour la télévision, et ensuite ils l'ont retranscrit dans une BD, une enquête au cœur de la zone la plus polluée de France. C'est dans le nord de Calais, où des centaines d'enfants sont atteints de saturnisme, maladie d'intoxication au plomb, vous le savez, qui entraîne des troubles neurologiques irréversibles. Ça fait 20 ans qu'une usine très connue est qui a considérablement pollué la région a été fermée. Pour autant, personne n'a rien fait. Et Martin Boudot, donc journaliste d'investigation, est allé voir un peu ce qui se passait avec son équipe Vert de rage sur place. Il a un peu forcé les portes des mairies, des tribunaux, des multinationales. Et il a levé le voile sur l'un des plus grands scandales sanitaires et environnementaux de notre temps. Donc je vous conseille de vous offrir cette BD. Vous allez voir, vous allez vous demander dans quel monde on vit. Vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Et puis, pour pas sortir du sujet premier, Le ghetto scolaire, un livre de François Dubé et de Najat Vallaud-Belkacem, qui, si je me souviens bien, a été ministre de l'éducation nationale. Elle l'a été. C'est au Seuil. Et elle l'a été sous la présidence de François Hollande, je crois.
Soi-même.
Voilà, donc c'est un livre où on parle même de ce qui s'est passé ici, de ce qui s'est passé au Mirail. Puisque le quartier du Mirail à Toulouse ou du Petit Bar à Montpellier avait... Alors, ce n'est pas le Petit Bar de Corse, hein, il ne faut pas mélanger, c'est non. Le Petit Bar B-A-R-D.
Avec un D à la fin.
Avec un D à la fin.
Avec l'association Les Mamans du Petit Bar.
Voilà, absolument. Ont été à une époque, je crois, un terrain d'expérimentation. Et donc, on en parle dans ce livre. Et vous verrez que toutes ces évaluations qui ont été faites, notamment au niveau des groupes de niveau qui ont été... confirmer ces évaluations par des expériences équivalentes aux États-Unis, en Suède et en Grande-Bretagne, eh bien, M. Attal, notre ancien ministre de l'Éducation, nouveau Premier ministre et ex-élève de l'école alsacienne, s'est largement assis dessus, Jean-François.
Oui, je conseille aussi la lecture de ce livre. Je ne sais pas que vous en parleriez, mais j'ai suivi indirectement, effectivement, ce qui s'est passé à Montpellier, en l'occurrence, sur l'enquête... avec y compris François Dubé et le Cadis. Le juste, alors moi local, pour le coup, Neus Viala, qui est une documentariste d'origine catalane, qui a beaucoup fait de documentaires sur la question, qui est la question de ce qu'on appelle les migrants et les sans-papiers, sort dans les jours qui viennent un nouveau documentaire qui s'appelle Éclairage et qui vient encore une fois donner de la visibilité à la réalité des étrangers dans notre pays. Pour les Toulousaines et Toulousains, ça, l'avant-première, c'est le jeudi 25 avril à Utopia Bordeaux-Rouge à 20h. Allez-y, c'est toujours une ouverture vers ce monde-là que les films de Neus. Voilà.
Et puis, puisqu'on est né aux dates et vous avez ouvert votre agenda, Altigone Santores, vous aurez le 16 mai 2024 à 20h30 un concert de gospel. Au profit d'une association dont je recevrai prochainement la présidente, Action Femmes du Grand Sud, qui s'est donnée pour but de réinsérer dans le monde du travail nos compagnes de plus de 45 ans et qui étaient en souffrance. Voilà, Action Femmes Grand Sud, et la présidente viendra bientôt nous expliquer les buts et les réussites qui sont réelles de son association. Voilà, mais je crois que nous sommes arrivés au terme notre émission. Merci Léna, merci Maëva.
Merci Jacques.
Merci Jean-François. Bon, on se congratule, c'est bien normal. Oui. Un merci à Léo Touroult qui était aux manettes. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. À très bientôt.